Salam alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le premier épisode de La Tay de 2021. On est super contents de se retrouver, mais aussi de vous retrouver cette année, surtout vu la situation dans laquelle on était les derniers mois. Moi, je suis super contente de ne pas vous avoir à distance cette fois. On vous souhaite à tous une bonne année et qu'on puisse survivre à 2021 comme on a survécu à 2020 et revenir avec encore plus de contenu et de conversation tant que les mesures prises par notre cher gouvernement nous le permettront. Aujourd'hui, à ma table, il y a Blaise, comment tu vas ?
Salut, ça va ? Et vous ?
Tout est top.
Amel ?
Ça va bien et toi ?
Théophile ?
J'ai la grosse patate, je peux léviter à 3 cm du sol maintenant, je suis en forme.
Tout ça ?
Tout ça.
Zied ?
Ben moi ça va et toi Lina ?
Bah écoute, ça va super bien. On a aussi une invitée avec nous aujourd'hui. Lydia, comment tu vas ?
Bah écoute, ça va.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement, donner genre ton âge, tes origines, un peu ton parcours, ce que tu fais dans la vie ?
Donc je m'appelle Lydia, j'ai 24 ans et je suis journaliste pour un magazine féminin et je suis franco-tunisienne. Un papa breton et une maman tunisienne.
Aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui me tenait déjà particulièrement à cœur et ce depuis la création de ce projet. Parce que aussi c'est un sujet qui se trouve à l'essence de tous mes autres projets, qui est celui des standards de beauté et de la représentation. Je pense qu'on a tous grandi avec des schémas très différents et qu'on a eu des expériences et des vécus super différents à propos de ça, notamment sur plein de points. Déjà sur le fait de grandir dans un endroit où physiquement on n'est pas la norme, faut le dire, mais aussi de s'intéresser au fait que parfois même dans nos pays respectifs, notre propre physique ne correspond pas à la norme. J'aimerais beaucoup aussi qu'en seconde partie on parlera un peu de représentation, mais vraiment sur un aspect un peu plus physique que la représentation dont on parle généralement dans les épisodes. Je voudrais commencer par vous demander à chacun, c'est quoi votre rapport avec votre physique et en quoi ce rapport il s'est construit avec l'image que vous aviez de ce que c'est que d'être un maghrébin, et est-ce que ça a joué un rôle ou pas du tout?
De mon côté, La relation avec le physique, elle a été compliquée dès le départ quand, en opposition avec des gens des mêmes origines que moi, j'ai capté que je ressemblais pas à un arabe. Mais en plus de pas ressembler à un arabe, je ressemble à un blanc, tu vois. Et ça me casait dans un espace très particulier qui fait écho à tout. À peut-être tout l'essence de ce projet, tu vois, souvent on se dit culturellement, quand on va au bled, on est des Français, quand on est en France, on est des Arabes, mais moi je l'avais même jusqu'à mon physique, tu vois. Et ça a donné plein de questionnements, et au final j'ai avancé avec, et il n'y a qu'en grandissant que tu dépasses un peu ça, mais quand t'es dans le jeune âge, que le physique c'est le centre du monde, tu poses des questions constantes. Et avec les questions, t'as les complexes, tu vois. Et je sais pas pourquoi, le top 1 complexe, ou le truc qui disait, ouais, rebeu, ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas comment formuler ça, mais en gros, c'est que j'ai pas une bouche de blanc, tu vois. Genre, j'ai des lèvres, j'ai machin. Et c'était le truc qui faisait tiquer un peu les gens. Ils disaient, ah oui, c'est vrai, ok. Avec les cheveux vaguement bouclés, quand ils sont un peu longs, vaguement, genre, indisciplinés. La grande période Justin Bieber, machin, la frange, c'était pas dans mes capacités, tu vois. Donc là, les gens, ils se disaient, ah, peut-être que c'est pas un blanc, mais sinon. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sid Ahmed. Non, tu t'appelles comment, s'il te plaît?
François,
pas moi.
Théophile.
Moi, j'ai grandi un peu dans un rejet, on va dire, de mon arabité au début, vraiment au début de mon enfance, genre primaire, collège et tout, avant que je me la réapproprie. Et ça passait par le fait que j'en avais rien à branler d'être dans les codes vestimentaires de l'époque et de là où j'ai grandi. J'étais pas du tout en mode les cheveux courts, le jogo et tout. Et ça peut paraître super banal et mesquin et vraiment juste trivial. Mais quand t'as 12-13 ans et qu'on te dit, hey, t'es d'où, t'as des origines et tout, je dis, ouais, je suis franco-algérien. Je dis, non, on te veut pas dans le groupe. Genre, peut-être, mais non, en fait. Genre, grave, non, avec tes cheveux longs là, t'écoutes du métal. Non, casse-toi, dégage. Et du coup, je me suis dit, bon bah fuck. Voilà, hein, je vais mettre ça de côté. Je vais arrêter d'essayer de revendiquer parce que finalement, il n'y a personne en face pour me récupérer. Donc non, c'est vraiment super récemment. Et aussi grâce à la taille aussi, que j'ai fait aussi... voilà, j'ai eu maintes et maintes occasions de redécouvrir pas mal de trucs à mon sujet, au sujet de ma famille, de mon histoire et aussi de ce que je veux pour mon avenir. Et du coup, ouais, ça a grandi avec moi en mode un peu genre paria. Mais il n'y avait que les petits rebeux qui en avaient quelque chose à foutre parce que tu sais, rien à branler, franchement, j'ai une tête de blanc, tu vois, les cheveux courts et tout, tu sais, ça passe un peu crème.
Parce qu'ils en ont vu d'autres en fait, des gens qui ressemblent pas.
Ouais, fondamentalement, j'ai eu aucun problème avec les aides. En fait, non, je dis une bêtise, un jour je passais un entretien d'embauche et on m'a dit, choutri, c'est pas français ça. Et là, je suis devenu, genre, tu sais, je suis devenu livide. voilà. Mais voilà.
Le camouflage est.
Ouais, grave. Mais tu sais, tu tombes sur un mec qui a 70 ans, qui a peut-être affaire à la guerre d'Algérie, tu vois. Les familles qui finissent en X et pas en Y.
Ouais,
direct, t'es capté. Et voilà. Donc c'est mon histoire. Par contre, je suis en croisade contre l'administration française qui a très envie de finir mon nom de famille avec un Y. Comme c'est un peu. Et je vous jure, franchement, ma mère, elle a commencé ça quand elle s'est mariée à mon père. Et moi, je reprends le truc à chaque fois. Alors, ça avait qu'un Y à la fin, hein, nous. On trouve quand même le moyen. Donc voilà, donc je suis passé vraiment d'un genre de rejet où il n'y avait pas trop d'acceptation en face, donc franchement, j'ai mis ça de côté, à hey, j'ai repris les rênes du truc, je dis vas-y, fuck, maintenant, unapologetic, tu vois, sans me dire comme si j'étais vraiment immigré, parce que non, je suis né en France, j'ai grandi en France, faut pas que je prenne ce qui est pas à moi, mais voilà, j'ai un peu pris ce que j'avais comme héritage et comme particularité, qu'elle soit physique et culturelle, et vas-y, je l'ai remis sur le devant de la scène. Donc voilà.
Du coup, c'est mon tour. Ben en fait, moi, en vrai, je pense que ça va se démarquer peut-être de vous, parce que moi, de base, j'étais au Maroc, en fait. Du coup, j'étais dans la norme. Et j'ai une tête de Marocain. Tout ça, n'importe qui me voit, même parmi les trois pays, on me dit, ouais, t'as vraiment une tête de Marocain, tu vois. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis, en vrai... Je pense qu'au Maroc aussi, dans certaines, enfin dans la classe sociale aussi où moi j'étais, je pense que t'as aussi un idéal qui se calque un peu sur celui de l'Occident, tu vois. Donc la transition m'a pas spécialement effleuré, enfin spécialement touché, je veux dire. Et du coup, j'ai pas spécialement, franchement, comment dire, d'histoire vis-à-vis de mon physique par rapport à mes origines. J'ai vécu ça à peu près. En fait, je voyais bien que j'étais différent, tu vois, de la norme en arrivant en France, mais ça m'a pas.
Est-ce que t'as grandi en voulant être blond? Vraie question.
Alors, franchement, non.
Okay,
franchement, non. Genre, limite, je crois qu'il y a un moment de ma vie, quand j'étais fan de basket, je voulais être Renoir. Ouais. Et aussi parce que je voulais faire des dreads. Voilà, c'est sacré dossier. Mais blonde, vraiment jamais.
Non, blond, blond.
Blond, blanc,
Ok.
non.
Ok.
Non, non, franchement, peut-être un moment, je pense, comme tout rebeu, un moment, t'as un truc avec les blondes
Ouais.
quand t'es au collège.
Parce c'est que une
tu... vie de sa mère,
ça. Non, mais c'est
vrai.
C'est
ce que j'allais dire.
Non, mais c'est... Enfin, je sais pas si c'est un vrai truc, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on était plusieurs, en tout cas, enfin, quand on en parlait, machin, tu vois, genre à l'époque du collège, on était, waouh, ouais, les blondes, en mode, parce que les blondes. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a toute une histoire, je saurais pas dire quoi, mais. Mais voilà, mais sinon, non. J'ai pas eu spécialement de trucs par rapport à ça. C'était plus mon nez.
Ouais,
Mon nez, le
je
truc
vois ce que tu veux dire.
que j'ai le plus senti, entre guillemets, différent, tu vois.
Ça va être un gros sujet, ça.
Ah, les nez, frère.
Moi, c'est un peu comme Zied. J'ai pas vraiment d'histoire par rapport à mon physique. Pareil, je ressemble à une Marocaine. J'ai pas du tout le white passing. Rien à... Genre, du tout. Le seul problème que j'ai eu, c'est peut-être avec mes cheveux. Genre, je pense comme à peu près toute maghrébine, à un moment de ma vie, j'ai voulu avoir des cheveux lisses. Encore maintenant. Mais genre je savais pas du tout comment m'en servir, enfin comment gérer ça en fait, parce que ma mère elle a les cheveux plutôt ondulés lisses et elle aussi elle t'a demandé ah, bon bah t'as les cheveux flash hein, que tu veux que je fasse, tu fais un chignon et puis voilà. Et du coup ça a continué jusqu'au lycée. Au lycée je me suis dit c'est bon maintenant je me lisse les cheveux et je suis encore dedans. Voilà, il n'y a pas encore eu d'évolution par rapport à ça. Des fois je laisse mes cheveux naturels mais je regrette très très vite parce que c'est ingérable pour moi. Mais c'est tout, genre, j'ai pas non plus voulu être blanche, parce que, je sais pas, ça m'attirait pas forcément. Je préférais, enfin, je trouvais que les filles maghrébines étaient, enfin, c'était ce qui me ressemblait le plus, et c'était ce qui était le plus atteignable, je dirais. Et du coup, c'était un peu ça mon canon de beauté.
Ouais, c'est un peu en fait le plus beau qui te ressemble.
Ouais, voilà, genre, je me dis pas, enfin, genre,
Tu
j'allais pas vers
ouais, tu...
l'impossible, en
ouais,
mode,
voilà. Ouais,
je veux être blanche. Non,
je suis
genre,
d'accord qu'il y a, y
il
a
y
un
a
truc
des
comme ça
très,
un
très,
peu.
très belles filles chez nous. J'aimerais leur ressembler, elles, parce que
Ouais.
c'est atteignable potentiellement, parce que je suis maghrébine, mais c'est tout, tu vois.
Ouais,
Mais
je vois.
être blanche, non. Et aussi, peut-être parce que, du coup, je suis de Villeneuve et il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup de blanches dans mon collège, ni dans mon lycée. Du coup, j'étais pas forcément confrontée à ça. Peut-être, mais il n'y avait pas forcément de rivalité ni rien.
Ouais, il n'y avait pas une norme blanche,
Mais
quoi,
ouais,
plus
voilà,
généralement.
on était vraiment tous mélangés et du coup, j'ai pas eu ce problème-là, ouais, d'être rebeu ni rien. Ouais. Ouais, non, c'est bon, c'est tout.
C'est bien.
Moi, je me suis toujours considérée comme une anomalie, en fait. Par rapport à ma mère, par rapport à mes sœurs, par rapport à mes cousines. Je leur ressemble pas en fait et je ressemble pas à une rebeu. Enfin là vous pouvez pas me voir mais j'ai les cheveux au reflet roux et je suis hyper blanche, voilà tout le contraire de mes sœurs. Et en fait ça m'a toujours questionnée et c'était très très dur pour moi, surtout quand j'étais jeune, surtout quand j'étais petite, parce qu'en fait je me suis toujours considérée comme rebeu bizarrement, même si genre j'aurais pu me dire non au final bah vas-y je suis sortie comme ça donc ça compte pas, mais ma mère elle a vraiment mis un point d'honneur à ce que genre mes soeurs et moi, même si on parle pas l'arabe, genre qu'on aille le plus souvent possible en Tunisie, que genre on soit grave en contact avec la culture, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des plats et tout. Et du coup voilà, je me demandais en fait pourquoi je ressemble pas à une rebeu en fait. J'étais interrogée, je me disais mais au moins des cheveux bruns quoi, genre je sais, genre le minimum quoi, genre au moins tiens, ressembler à une petite Kabyle tu vois genre et en fait ça m'a vachement, quand j'étais petite surtout je me disais en fait j'avais du mal à accepter on va dire ça, et surtout quand je le disais aux autres en fait on ne voulait pas me croire, genre quand je le disais mais parce que je suis née du coup à Cergy, j'ai grandi à Cergy et c'est grave, c'est un environnement hyper mixé en fait. Il y a vraiment de tout, mais du coup, il n'y avait pas comme moi. Il y avait de tout, mais il n'y avait pas comme moi. Et en gros, quand je le disais aux gens, ils ne voulaient pas me croire.
Il est violent le non.
Ouais,
Genre,
non.
t'as aucune raison de mentir
Non, mais
là-dessus et
tu sais,
tu
genre, en
dis
plus,
non.
j'inventais des trucs stylés, genre brésilienne, tu vois, colombienne. Je ne vais pas dire que je suis tunisienne comme, genre,
Comme beaucoup de
comme beaucoup
gens,
de
ouais.
gens, quoi. Je chercherais un petit truc, tu vois. Et genre, en fait, quand on me rejetait ça me faisait trop mal. Genre, vraiment, quand on me disait, mais non, mais c'est pas possible, tu mens. Mais pourquoi j'irais mentir là-dessus? Tu sais, alors, pourquoi, en fait? Et je me souviens, donc, du coup, moi, j'ai cette particularité aussi d'avoir pris la religion de ma mère. Et quand je disais, du coup, quand j'informais le personnel scolaire
que
je mangeais pas de porc, il me regardait, mais il me disait, mais allez, arrête, va prendre ta saucisse et casse pas les couilles, tu vois. Genre, le menu poisson, il ne te sera pas réservé. Tu vas manger ta saucisse comme tout le monde.
Ah ouais.
Et c'est un truc, vraiment, qui m'a suivi. Et ça, en fait, ça m'a grave dérangé tout mon enfance. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, franchement. Genre, c'est bon, tu vois. Genre, je me suis dit, vas-y, je suis comme ça. Et tant pis, quoi. Et genre, même au niveau de ma famille, à chaque fois, on me disait, mais toi, t'es spéciale. toi, t'es différente. Du coup, voilà. Donc, gros problème d'identité quand j'étais enfant, même à l'adolescence. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux parce que, bah, comme tout le monde, j'ai grandi, quoi.
Ouais.
Blaise.
Moi, j'ai pas beaucoup d'histoires sur mon physique non plus. Parce que, bah, déjà, à part mes cheveux et un peu mon nez, j'ai pas beaucoup de traits maghrébins, on va dire. C'est vrai que, comme Lydia, par exemple, mon frère, il a les cheveux hyper noirs. Il a le teint, on pourrait croire que c'est un Marocain. Donc, je sais pas, il a tout pris, il m'a rien laissé.
Et on est grave ensemble là.
Mais vraiment.
Des voleurs.
Vraiment. Il a tout pris. Il a dit, tiens, vas-y, débrouille-toi maintenant. Et mais du coup, moi, j'ai pas, donné beaucoup d'importance à mon physique jusqu'à tard. Même que ce soit au niveau des vêtements, etc. J'étais, c'est vrai que j'ai délaissé un peu ça, on va dire. Mais j'avais pas vraiment besoin de m'identifier à quelqu'un parce que déjà moi j'ai jusqu'à mes 8 ans j'habitais dans un quartier mélangé, donc les gens ils me ressemblaient, on se ressemblait tous à peu près, enfin même si on était différents on se ressemblait, on va dire. Et puis quand on est enfant surtout on s'en fiche de savoir à quoi ressemble l'autre, donc voilà. Par contre quand de mes 8 ans à mes 13 ans j'habitais à l'étranger et là j'étais dans un lycée français et t'as que des blancs quasiment, t'as un noir et tu sais que c'est un noir et t'as deux rebeux, c'est tout. Et du coup c'est vrai que j'ai pas pu m'accrocher avec des gens qui me ressemblaient vraiment, donc ça s'est fait quand je suis revenu en France et que je suis retourné au collège du coup en France. Et que j'ai rencontré des Tunisiens, des Marocains, des Algériens et tout ça. Et là, je me suis senti vraiment à ma place. Enfin, je me suis senti comme eux, en fait. Enfin, c'est un peu bête dit comme ça, mais...
Même avec un physique...
Ouais, pas hyper marqué. Pas très marqué. Ben, je me suis senti vraiment comme eux, quoi, ça.
Après, ouais, je pense que de toute façon, en vrai... Enfin, ce que je disais sur la con avant. Mais je pense qu'en vrai, nous, les gars, je pense qu'on a un moins de focalisation sur notre physique aussi, du fait qu'on nous renvoie beaucoup moins à notre physique que les meufs. Et je pensais justement, le truc qu'Amel elle a dit, le truc des cheveux. Les cheveux, ouais. C'est genre le dénominateur commun de toutes les maghrébines qui n'ont pas les cheveux lisses, quoi. C'est « Ah, je voudrais avoir les cheveux lisses, ah, c'est plus simple, ah, c'est machin », tu vois. Et, et justement, d'ailleurs, du coup, Lina...
Ouais, j'allais
dire Lina...
C'est quoi le thème?
Ouais, et d'ailleurs, toi, est-ce que tu te lissais les cheveux, tiens?
Putain, c'est une bonne question. Putain, c'est vrai que y a beaucoup de mystères, parce qu'on m'a toujours vu que aux cheveux.
Bah ouais, moi je t'ai jamais vu...
Les cheveux lisses.
On va voir avec des coupes de ouf.
Ouais, rasé en triangle.
Pas du triangle.
Ah oui.
Le triangle de Zelda, là, de l'air de la nuit. Génial.
Triangle de Bermude sur mon crâne. Non, en vrai, je sais pas trop... Enfin, si, je sais, en vrai.
Elle veut pas nous dire.
Non, en fait, moi j'ai un rapport, du coup, qui est grave différent, parce que... Pour le coup, moi, j'étais grave brainwashée par toutes les représentations, que ce soit dans les films américains, dans toute la culture que je consommais, puisque pour le coup, j'étais au collège et en primaire, dans le 93, ça a jamais été... j'ai jamais été une exception, quoi. Mais en l'occurrence, il y avait beaucoup ce truc dans le contenu que je consommais. J'étais fan de Disney Channel et tout quand j'étais petite, comme beaucoup. Et ouais, il y avait toujours ce truc, tu sais, de la meuf blanche, blonde. Et puis c'était aussi le moment où il y avait où il y avait un peu toutes les mannequins, genre les Kate Moss, les machins, et je sais pas si vous vous souvenez, mais avant que Kim Kardashian arrive, la mode c'était quand même d'avoir des lèvres fines, d'être hyper mince, genre super super mince, genre limite de pas avoir de forme, d'avoir les cheveux lisses, etc.
Sauf
et
de la poitrine.
Hein?
Sauf de ouais. la poitrine,
sauf,
avec que
sauf
ça.
De la poitrine, mais tu sais, il y avait même pas, enfin même quand tu regardes les vieux clips de rap ou quoi, il y avait pas de meufs aux grosses fesses ou quoi, enfin c'était pas du tout ça, enfin les canons de beauté ont énormément changé, et du coup moi je m'identifiais pas du tout à ça, déjà bah parce que mes lèvres prennent le tiers de mon visage et ouais non, tu sais il y a eu tout un truc très bizarre où je suis passée genre de pas du tout être dans les standards de beauté à être tout l'inverse, et du coup genre enfin je sais pas, il y avait un truc un peu bizarre où il y a eu une période de ma vie où je voulais avoir les cheveux lisses, mais parce que c'était plus simple à coiffer, et parce que en fait moi ce qui s'est passé avec mes cheveux, c'était que quand je suis née, j'avais les cheveux châtain clair et j'avais les cheveux ondulés.
Moi aussi.
J'avais les cheveux très ondulés, presque lisses, tu vois, et très beaucoup beaucoup plus clairs que maintenant, et à la puberté, mes cheveux ont commencé à beaucoup bouclé, genre énormément, et à devenir beaucoup plus foncé. C'est-à-dire que genre j'ai eu trop du mal avec cette partie-là où mes cheveux ont complètement changé de nature, et où j'étais passée d'un truc où j'avais des trop beaux cheveux à un truc où mes cheveux étaient indomptables, et j'ai eu une période où je me lissais beaucoup les cheveux. Après je me suis jamais lissé les cheveux tous les jours, mais ça m'a beaucoup 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 abîmé les cheveux. Du coup j'ai arrêté, et j'ai mis du temps à arrêter, et pareil je me maquillais beaucoup aussi au lycée. Genre je me maquille vraiment vraiment beaucoup, ouais, on dirait pas,
ouais.
et en fait après petit à petit genre je me suis grave rendu compte que tout ça c'était des trucs qui étaient là parce que moi j'étais pas en accord avec ce que Dieu m'a donné, et que j'ai commencé à enlever de plus en plus, on va dire, à enlever de plus en plus d'artifices et à en rajouter que là où j'avais vraiment envie d'en rajouter, on va dire. Mais en fait, quand je suis partie au lycée, j'étais dans un lycée de blanc. Enfin, en fait, j'étais pas dans un lycée de blanc, mais parce que je faisais une classe élitiste allemand et tout, j'étais dans une classe de blanc. J'étais littéralement la seule arabe de la classe, vraiment la seule.
T'es la caution diversité ?
Exactement, en fait. Mais vraiment, exactement. C'est la caution diversité, la caution 93. Et, en fait, il y a eu un truc grave bizarre, où genre au lycée, c'était trop bizarre, mais genre... genre moi je vais trop ressembler aux meufs de ma classe, et les meufs de ma classe elles voulaient trop me ressembler, genre elles étaient trop là en mode ah, t'as trop de la chance, t'as des formes, t'as des belles lèvres, tu sais genre t'as les cheveux bouclés et tout ça, mais viens on échange en fait.
Mais c'était pas justement à ce moment là où les Kim K et tout elles commençaient à péter
au lycée? Ouais.
Si,
ouais.
Bah, ouais. Si, elle est Kylie Jenner et tout,
c'est exactement ça,
et
c'est
genre,
ça
elles se sont dit ah en fait avoir des formes c'est devenu tendance, bon qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Et je pense que c'est aussi le moment où, genre, nous, le moment où on a vécu le lycée, plus ou moins, mais en tout cas, genre, lycée début adulte pour certains, collège ou autre, enfin, c'était vraiment le moment où tout a changé. Et ouais, c'est vrai qu'il y a eu grave un revers après ça, et en fait, après, j'en suis juste arrivée à me dire que, en vrai, genre, notre physique, c'est aussi une partie de notre héritage culturel, et que. Bah, chacun en fait devrait être à même de pouvoir l'apprécier, parce que c'est beaucoup plus que juste un physique.
Amel, dans ta première intervention, il y avait un point intéressant. T'as dit que t'as vu de belles femmes arabes et t'as décidé que t'allais vouloir leur ressembler et tout parce que c'était plus proche de toi. Tu les voyais où? Parce que de belles personnes de nos diasporas, ou des personnes dont on mettait en avant la beauté sans la sexualiser, tu vois, c'est très très rare.
Bah en fait, à la maison, il n'y avait que des séries rebeux, que des 2M,
ouais,
que,
ouais.
Moi, que des trucs comme ça. Et du coup, bah, j'en voyais tout le temps à la télé des très très belles femmes. Dans les clips libanais aussi, quand j'allais au Maroc et sur Mazika, je crois, des trucs comme
ça. Mazika.
Il n'y avait que des clips de meufs rebeux incroyables. J'étais en mode, mais elles sont trop belles.
Ouais.
Et aussi, du coup, Lina, quand tu as parlé des lèvres, bah, ça m'a rappelé un truc que je faisais au lycée. Peut-être au collège aussi, un truc hyper bête, mais en gros, j'essayais quand je souriais, j'essayais de rentrer ma lèvre supérieure.
Oh non!
Alors, pour avoir des lèvres plus fines.
Oh, en mode cheat en souriant.
Exactement, mais je ressemble vraiment à ça. Il y a une photo de moi, une photo de classe, mais je ressemble vraiment à. Au petit en souriant, genre je fais flipper, bien comme ça,
La ref du petit en souriant, c'est dans SNK pour ceux qui n'ont pas capté.
Ouais, au cas où. Mais bref, du coup, ça m'a rappelé ça et je me suis dit, ah non, merde, en fait, non, il y a des trucs que j'aimais pas chez moi. Et du coup, il y avait les lèvres pas fines que j'avais. Et même chez les rebeux, je trouve qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de lèvres particulièrement charnues. Hein.
Mmh. Ouais, genre, mais t'as une espèce de, pas, ouais, de niveau moyen qui est,
oui, voilà, qui est plus élevé, ouais, j'ai l'impression quand même.
C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, non, les lèvres fines, j'aimais beaucoup ça. Mais et du coup, je voulais être comme ça.
Pardon, excuse-moi. Mmh. Mais ça me faisait penser. Parce que du coup, je me disais, c'est marrant parce que je sais plus c'était quand, c'était il y a 2 ans, là, le challenge débile. Là. Ça mettait,
ouais,
ça, le
lipstick,
ouais,
Kylie
Jenner challenge,
voilà, lipstick, je sais pas, mais ça mettait sa bouche dans une bouteille et c'était super dangereux, ouais, pour gonfler ses lèvres, enfin bref. Et je, et aussi quand Lina a parlé de la mode avant, qui était filiforme etc, et pas forme et tout, et c'est marrant, enfin je me demande, hein, c'est juste une réflexion, parce que tu vois, je sais plus, c'est les années 50 ou 60 je crois, où c'était un peu pareil la mode, c'était d'être, je sais pas comment on dit, charnu entre guillemets, tu vois. Et voilà, c'était juste, je me demandais si c'était des cycles, tu vois, ou est-ce que c'est finalement en fonction des influences vraiment, ou est-ce que ça va revenir, tu vois.
C'est complètement un cycle.
Eh bien, je me demande. Extrêmement intéressant, parce que en prenant mes notes pour l'épisode, je me suis un peu renseigné sur l'histoire des standards de beauté et sur justement la perception du statut social que tu envoies avec ta beauté et avec ton corps. Et du coup, t'as le. Bah, déjà, de base, ton corps, il renvoie ton statut. Donc voilà. Donc, déjà, première chose, déjà, comment tu parais, c'est comment tu es en mesure de te nourrir, de prendre, ouais, soin, voilà, de toi, d'où tu viens et où tu vas.
Historiquement, et c'est des gens charnus qui étaient.
Voilà, historiquement, mais t'as ça, mais genre. Antiquité et Mésopotamie, mais tu vois, t'as vraiment genre les petites statuettes de déesses de la fécondité, tu vois, c'est vraiment des femmes avec beaucoup de formes, mais pas que juste les boobs et le cul, vraiment aussi le ventre, les cuisses, tout ça. Vraiment, faut être bien nourri, porter un enfant, c'est la fertilité, la fécondité, bien manger. Ensuite, t'as évidemment des entre-deux, parce que du coup, tu vas voir pendant l'Antiquité et surtout le Moyen-Âge, tu vas avoir moins de, comment dire, d'apparences qui vont à l'encontre de ce que Dieu t'a donné. Je sais que par exemple l'Église proscrit le maquillage sur les peintures de femmes, parce que ça travestit en fait l'être humain tel qu'il a été conçu,
ouais,
par,
ouais,
Dieu.
D'accord.
Puis ensuite, à la Renaissance, avec l'Orient qui exporte les fards, le mascara, tu as tout ça. Là par contre, on a plus de couleurs sur les visages et plus d'apparat en fait finalement. Et évidemment, t'as dans les années 20, donc là, fast forward 20e siècle, ouais. Dans les années 20, t'as le look de la, entre guillemets, garçon qui apparaît, les flappers, donc vraiment look un peu androgyne, petite forme et tout machin, bien plus, on va dire, un peu stylé, mais tu vois, indépendante. Et ensuite, ça repart années 50, les Marilyn Monroe, des proportions, ouais, plus, entre guillemets, féminines, grosses guillemets, féminines. Et t'as, et, évidemment, ça c'est très occidental. Parce que en Tunisie, alors je me rappelle une histoire vachement intéressante, un thread Twitter vachement intéressant sur comment est-ce que tu prépares les mariés chez les juifs tunisiens. Et bon, c'est peut-être plus le cas actuellement, mais je sais que la génération d'avant, c'est encore le cas. Mais en gros, le régime avec beaucoup de produits très à base d'huile, par exemple, pour les faire grossir, tu vois. Et puis tu sais, on leur passait de la farine sur la peau et tout. Donc il fallait vraiment qu'elle soit très pâle et très grasse. Pour justement la fertilité, tout ça.
Ah, d'accord.
Et maintenant, actuellement, c'est plutôt. Alors, au Maghreb, c'est encore la pâleur de peau est encore très, ouais, très favorisée. Mais même chez les Renois, hein, moi je me rappelle une camarade de classe qui me disait qu'on rentrait au Sénégal, ses parents la laissaient pas aller dehors, enfin rester trop longtemps dehors. Elle était noire, hein, noire de peau, hein, ouais. Mais il fallait pas qu'elle devienne encore plus. Attention.
Ouais, non, mais après, je sais pas si. Enfin, actuellement, le constat elle-même, on a ces critères-là, tu vois. Mais je pense que ça doit sûrement venir de deux choses différentes, dans le sens où, quoique, je sais pas. Mais chez eux, il y a beaucoup de pays où c'était représentatif de sortes de castes, en fait.
Mmh, oui. Ouais, c'est pas possible. Ouais.
Où t'as même encore des noms de famille aujourd'hui qui sont associés à, bah, en fait, tes ancêtres étaient travaillés dans mon champ, tu vois. Et moi, j'étais ton propriétaire.
Ouais.
Et souvent, bah, du coup, forcément, les gens qui travaillent dehors, bah, ils sont plus foncés.
Si même t'as le temps à aller, tu, oui, travailles, voilà, dehors dans les champs et tout. Si t'es pâle, tu restes, ouais, à la maison à Londres.
Ouais, tu vois.
Ah, mais tu vois, c'est ouf que jusqu'à maintenant, par exemple, ce truc de la blancheur, par exemple, de la mariée qu'on blanchit de ouf, oui.
moi, ma cousine, quand c'est elle s'est mariée dans l'est de l'Algérie, ouais. C'était ça. C'était
toutes mes cousines.
Je l'ai même pas reconnue le jour du mariage.
C'est vrai que c'est vrai que.
Je l'ai même pas reconnue.
Tellement... Je trouve ça tellement horrible. La vérité, c'est moche.
Ouais, je me souviens quand ma cousine s'est mariée aussi, pareil, fond de teint blanc.
Mais blanc,
mais faudrait... Et tu sais, sur les photos avec le flash, ça ressort. Et tu te dis, mais pourquoi vous faites ça en fait?
Ma cousine est un vampire.
Ouais, mais, ça, mais je tiens juste à dire que ces critères-là, ils sont vachement valables en Afrique du Nord et en Afrique en général, alors qu'en Occident, c'est tout le contraire. Il faut être bronzé, il faut avoir un teint hâlé. Et en fait, c'est ouf comment la balle se renvoie en fait.
Chef, t'as le business des centres UV. Tu vois, des cabines de bronzage. Mais
oui, voilà.
Tu mets ça en Afrique, n'importe quoi.
Non, mais vous, pourquoi vous faites ça? En fait.
Je viens de devenir plus foncé.
Quoi? Être plus bronzé, mais quelle idée?
Ouais, mais ça, c'est dû au fait aussi qu'en vrai, c'est la même chose. C'est juste qu'en Afrique, celui qui travaille, il est. Enfin, en Afrique. Ouais, dans toute l'Afrique, celui qui travaille il est dehors, le riche il est à l'intérieur, il bronze pas. En France, celui qui travaille il est dans le bureau et il voit jamais le soleil, et celui qui est riche il prend ses vacances et il part en voyage. En fait, c'est la même chose. Mais après, moi, il y a un truc aussi que je trouve. Enfin, tes exemples, ils restent quand même genre très occidentaux, et même si on sait toute l'importance que. Ces exemples ont, tu vois, en Afrique du Nord, il y a aussi un autre truc où, en fait, il y a un truc où, moi, par exemple, chez moi, les standards de beauté, c'était, comme elle a dit, c'était les chanteuses libanaises et c'était les séries turques. C'était les séries turques et c'était tu regardes la série turque, il y a aucun acteur qui ressemble à tes potes turcs.
Ah oui, vraiment.
Ils sont tous blancs aux yeux bleus ou aux yeux verts.
Le Mohamed, je sais pas si tu te rappelles.
Oui,
les Mohamed, c'était le prince charmant de toute la Maghrébine.
Oui, c'est vrai.
C'était l'homme à avoir, vraiment.
Blanc aux yeux verts.
Il est blond aux yeux bleus.
Ah, ok. Ouais,
grand blanc.
Vous êtes pas d'accord sur la.
Ouais, mais en gros, en tout cas, les yeux clairs.
Mais
par contre, ce que tu disais sur les juifs tunisiennes, ça me faisait penser à quelque chose qui est encore d'actualité chez les Sahraouis. Ouais. C'est le truc de s'engraisser, entre guillemets. Enfin, ça fait un peu animal. Ça.
Toute proportion gardée.
Oui, bien sûr. Mais en tout cas, de prendre du poids avant d'être marié pour les femmes. Et c'est un truc qui est encore. Fais voir. Ah oui, ok, on dirait un Suédois, oui.
Non, mais oui,
bah voilà, c'était le BG de ma grève.
Tu nous le décris pour les auditeurs et auditrices?
Un blond aux yeux bleus avec une mâchoire carrée.
Et cheveux gominés en arrière.
On dirait Chris Hemsworth, le mec.
C'est ça.
C'est Thor le go. Mais c'est Thor le go.
Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est vraiment ça.
C'est ça, ouais.
Tu m'aurais dit c'était lui. Je n'ai pas vu les Marvel et tout. Voilà.
Chris Hemsworth, version orientale. Mais c'est
et encore, hein, vraiment de loin.
Mais il fait vraiment blanc pour le coup. Mais ouais, du coup, lui, c'était vraiment l'homme.
Même en vrai, les chanteuses libanaises, elles restent quand même très.
Surtout que le Liban, c'est très particulier. Enfin,
c'est un cas particulier.
C'est le
majeur
arabe, ouais. Non, mais même au centre du Moyen-Orient, c'est un cas super particulier. Leur rapport à l'arabe.
C'est juste. Parce que du coup, enfin, mes cours vont me servir. Vraiment. C'est que c'est drôle ce que vous disiez sur les standards. Enfin, c'est drôle, non, mais sur les standards de beauté. Mais moi, j'ai étudié sur la poésie arabe, donc dans la péninsule arabique au 7e siècle. Et je crois que c'est Omar ibn Rabi'a, le poète, mais je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et il décrit les femmes qu'il désire comme charnues, et c'était vraiment le standard de beauté par excellence, quoi.
Ouais.
La belle femme aux cuisses larges, quoi, tu vois. Et c'est vraiment tout ce standard qu'on retrouve au fil des siècles, quoi.
Après, de toute façon, ouais, je pense que ça s'explique. Enfin, en fait, les standards, je sais pas si les standards de beauté entre guillemets de filiforme, etc., sont.
C'est très récent.
Entre gros guillemets naturel, dans le sens où en fait on est dans une époque maintenant super bizarre, parce qu'en fait avant quelqu'un de gros 99% du temps il est pas en problème, il a pas de problème de santé. C'est qu'aujourd'hui qu'on mange comme des merdes, enfin que tu vois qu'on peut être gros.
C'est lié à l'effort. Moi, je pense c'est lié à la quantité d'effort que tu dois mettre.
Ouais.
Genre, est-ce que avant, pour pas être gros, il fallait pas avoir posséder des terres, posséder de la nourriture, soit ne pas avoir à travailler. Maintenant, pour être, enfin, pour être
aujourd'hui,
gros,
c'est le pauvre qui est gros.
Voilà, il y a évidemment, ouais, c'est multifactoriel évidemment, mais
à cause des fast-food,
voilà, ouais, la malbouffe et les fast-food te donnent
plus
ça.
La sédentarité, etc.
Voilà. Et donc, maintenant, l'effort, il est où? Il est dans le fait de sortir dehors. Il est le fait de voir évoluer son alimentation.
Le luxe.
Ouais, c'est en fait
le luxe de
pouvoir payer du sport,
pour avoir du temps d'y aller.
Ouais, ouais. Finalement, le temps de loisir, c'est du luxe que bah, les pauvres finalement au moins ou non pas, et qui du coup ils peuvent pas être au teint allé et filiforme ou du moins
bon, après santé. En vrai, si tu bosses sur un chantier, tu peux être teint allé et musclé. En vrai,
je veux dire, j'ai bossé sur des chantiers. Si tu bosses sur un chantier, je peux aussi te niquer le dos.
Oui,
ouais, c'est
oui.
pas un luxe, ça, ce niquer.
Ah, oui, on est d'accord.
Tu peux aussi perdre un doigt.
On est bien d'accord.
Tu as aussi une certaine. Ok, c'est comme les personnes aux US, c'est exemple super précis, qui adoptent des codes de la culture noire.
Alors attends.
J'arrive pas à suivre là.
Tu as une romantisation du travailleur. Tu as une romantisation de travailler dehors, d'avoir le teint allé et tout.
Non,
sans avoir
ça,
les problèmes qui vont avec.
Je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il y a une romantisation du travail extérieur. Par contre, je pense qu'il y a une romantisation de la pauvreté.
Il y a aussi ça, ouais. Alors ça, énorme.
C'était les bandards de cité.
Ouais, on a pas besoin d'aller aussi loin que ça.
Ouais, là.
Franchement, la hype parisienne.
T'en as à côté. Ouais.
Moi j'ai une question,
là, c'est fou. Attends, je me permets, je fais une petite pub. Vous avez fait en plus un article, il me semble, sur ça.
Ah ouais, mais à l'époque, ouais.
Sur, je sais plus si c'était sur les shootings.
C'était sur le jogging. Genre le jogging, c'est un vêtement qui cristallise grave les enjeux de pouvoir, en fait, tu vois.
Ouais, tout ce truc-là de.
En fait, ça dépend qui le porte, tu vois. Le jogging est bien vu quand c'est une personne. Stylé, hype, quoi que ce soit qui le porte, là c'est stylé. Quand c'est un mec arabe, noir, qui vient d'un quartier,
danger.
Là c'est mal poli, c'est mal vu, c'est négligé, tu viens pas comme ça à un entretien, tu vois. Et c'était le jogging, c'est hyper intéressant, genre de la street au podium, quoi.
Ouais.
C'est grave intéressant d'analyser ça.
Ok, mais alors, effectivement, je me souviens aussi de cet article, mais je confondais avec un autre. Qui parlait, je sais plus, c'était...
C'était pas ceux qui étaient allés filmer dans des quartiers, ils prenaient les gens pour, comment dire, figurants, sans les payer. Il y avait une histoire.
Non, c'était
ça.
Par rapport, en fait, au shooting, je savais pas si
vous avez quoi.
Non, les shootings un peu, tu sais, à Tolbiac, tout ça, en gros, gros immeubles.
On en avait parlé aussi, ouais.
Ah, bah voilà, ouais, tu vois, en mode.
On aime bien faire ça, genre avec les. On avait fait aussi les Grecs, genre. C'est comme le jogging, en fait, un Grec, tu vois. C'est de la street à.
Ouais.
Au Grec.
Ouais, bah maintenant, ouais, t'as des Grecs à 15 balles.
Et on avait parlé de ça aussi, genre les mecs qui se prennent en photo dans des tours. Genre, on avait fait un gros article, en fait.
Voilà, qui vont pour aller se faire.
Voilà. Enfin, mais ils y habitent pas du tout, tu vois.
Voilà, c'est ça. C'est
ils vont, ils posent leurs photos et après, ils prennent leur métro et rentrent chez eux, quoi.
Ouais.
Parce que.
Si voilà, ce n'est le Uber.
La trotte électrique.
J'avais une question pour revenir au standard beauté, donc très axé sur le physique. Est-ce que, parce qu'on a beaucoup parlé d'arabes, on a même évoqué les Libanais, etc., les Turcs, pour la partie orientale, est-ce que nos standards. Oui, c'est pour ça que j'ai dit pour la partie orientale, les Turcs,
qui ne sont pas arabes,
je vais pas faire de mélange. est-ce que les standards de beauté du Maghreb et les vices qu'on y trouve, c'est-à-dire sur la blancheur, la blancheur un peu imposée, résidus de colonialisme, etc., est-ce qu'on le retrouve dans le reste du monde arabe? C'est-à-dire que, est-ce que les Saoudiens, ils sont plus beaux quand ils se trouvent blancs? Est-ce que c'est généralisé, ou est-ce que c'est principalement, comme j'ai dit, un résidu du colonialisme?
Bah, je pense que c'est un résidu du colonialisme, mais je pense que de toute façon, ce qui est beau, c'est ce qui est rare, en fait, tu vois.
Ouais.
Et que comme il n'y a pas... Alors, malgré la...
Ce qui est rare et qui n'est pas, entre guillemets, mal connoté. Parce qu'il y a des choses rares qui sont mal connotées,
tu vois. Mais tu vois, genre, je pense par exemple au Maghreb, en vrai, il y a de tout. Tu vois, il y a de tous les physiques, il y a de tous les types de physiques. Genre, tu peux pas faire plus, tu peux pas brasser plus de spectre physique qu'au Maghreb. En revanche, il y a des choses qui sont quand même plus rares que d'autres. Être blonde, ça reste toujours plus rare qu'être brune. Avoir les yeux clairs, ça reste toujours plus rare qu'avoir les yeux foncés. Et du coup, je crois que c'est aussi, tu vois, genre, déjà en plus, déjà que c'est rare, en plus, il y a, je pense aussi, tout un résidu de colonialisme qui fait que t'es plus belle parce qu'il y, y en a moins, quoi. Tu
vois, mais moi, je suis d'accord que je suis pas sûr que ce soit 100% du colonialisme. Enfin,
je pense que c'est aussi la mondialisation.
Aujourd'hui, mais même tu te connectes. T'habites en Algérie, t'habites en Canada, tu te connectes et tu vois principalement des Occidentaux.
Ouais.
Donc, bah, c'est forcément, tu vois, comme tu disais que tu voulais être noir quand tu connais le basket,
NBA, ouais.
Parce que tu as envie de ressembler à ce à quoi ça te plaît. Et du coup, comme aujourd'hui, c'est il y a 50 ans, c'est, tu, à part sur les magazines de temps en temps, mais tu le voyais pas, c'était pas autant généralisé. Je sais pas si c'est très.
Mais tu continues à le voir, tu continues à le voir dans les films qu'ils regardent au cinéma.
Évidemment, évidemment.
Non, mais bien sûr. Moi, je parle même avant, tu vois, si tu prends 19e siècle. Genre le siècle bah, où il y a eu la colonisation.
Le 19e siècle, justement, ils étaient là déjà. Donc,
En Algérie, oui. Ouais. Mais pas. Enfin, si tu prends le début, ou bref, ok, 18e. Mais moi, je me demande, tu vois. Je me demande parce que tu vois, t'avais quand même. Je pense que c'est aussi lié, je pense, y a des histoires de l'esclavage aussi. Tu vois, donc. Parce qu'en fait, forcément, quand t'as de l'esclavage et que t'as une ethnie qui est surreprésentée parmi les esclaves, bah t'as pas envie, entre guillemets, d'être pris pour un esclave. Tu vois. À partir de là, je pense que c'est des choses qui se mettent en place. Et puis même, t'as aussi autre chose. Bah, en fait, le truc qu'on dit depuis le début, hein, le truc du travail dans les champs, etc., du travail dehors. Parce que quand je prends l'Asie, l'Asie de l'Est, donc les pays.
Ils ont les mêmes problèmes.
Exactement. Genre ceux qui sortent avec un parapluie en plein soleil, franchement, c'est des Arabes puissance 10 000. Genre, nous, on n'est pas là comme ça à se protéger du soleil, tu vois. Genre eux c'est vraiment tu mets des gants tu mets enfin tu sais et je pense pas non plus que ce soit
partout.
Ouais bien sûr mais par exemple Japon ça a pas été colonisé par
c'était
les...
eux les colonisés
ah oui non, c'est eux les
impérialistes voilà tu vois et chez eux je pense que c'est très lié travail enfin
c'est complètement lié travail
tu vois très très finance enfin par rapport à
ouais situation sociale
voilà j'avais perdu
rappelez-vous le scandale pour Miss Algérie 2019 Khadija Benhamou qui a fait scandale en représentant l'Algérie en tant que femme noire.
Elle était même pas.
Elle était même pas.
Non, pas noire. Mais, évidemment, quand on dit femme noire, on pense tout de suite au standard.
Ouais, la vérité, c'est pour moi,
mais elle est algérienne, mais elle est foncée de peau. Ouais, elle a les cheveux hache, tu vois.
Tu sais, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que elle est décriée en Algérie, enfin en mode parce qu'elle est trop foncée ou quoi que ce soit. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que la mannequin arabe qui marche le plus, c'est Iman Amam, qui ressemble à une métisse. Et qui justement marche parce qu'elle ressemble pas trop à une arabe et parce qu'elle ressemble à une métisse et que du coup elle peut un peu rentrer dans le quota mannequin noir, mannequin métisse. Et en fait, c'est hyper intéressant que tu vois, genre, la Miss, elle soit genre en mode en Algérie, ils en veulent pas. Alors qu'en Occident, le truc qui marche le plus, c'est ça. Quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ce qui marche le plus, de toute façon, en termes de mannequins, il y a deux types de mannequins qui marchent quand il s'agit de mannequins arabes ou maghrébines. T'as la mannequin qui ressemble à une blanche.
Ouais.
Donc là, pas Maghreb, plutôt Moyen-Orient, mais Gigi et Bella Hadid. Ah, et rien que entre les deux sœurs. Gigi, elle a explosé avant Bella, parce que Gigi est blonde avec un visage hyper européen, alors que Bella a un petit peu plus de vibe plus palestinienne. Avant... Et d'ailleurs, on oublie complètement qu'on nommait.
Oui. Avant ses opérations.
Avant
ses
opérations, c'est ça.
Le nez aussi.
Le nez aussi. Et genre, on oublie grave que.
Elle a pas une tête de. Enfin, tu...
elle avait quand même une tête.
Non, bah, avant. Il y avait un air. Avant, il y avait un air. Maintenant, tu la vois. Franchement, moi, on me l'aurait pas dit.
Ah oui, mais justement, elle a marché après ça.
Ah oui, non, mais oui, c'est
là où Gigi, pour le coup, elle avait marché bien
avant parce qu'elle a la tête de Hollandaise.
C'est ça.
Ah oui, non, mais oui, totalement. Et l'autre partie, oui, c'est celle qui ressemble plus à des Renois.
Exactement.
Mais, enfin, métis plus. Ouais. Mais, ouais.
Tu as évoqué, tu as sorti le nom des sœurs Hadid, du coup, qui me fait penser. L'une des douilles qui a peut-être changé les choses très progressivement, le beau gosse qui s'est glissé dans l'équipe de One Direction. Zayn Malik, genre dans, enfin
oui,
tu sais que
c'est vite fait, non, hein, parce qu'il s'est pris beaucoup de haine apparemment.
Oui, mais
son physique, il fait qu'il soit musulman, il fait
ouais,
qu'il
soit
à moitié pakistanais.
Chef,
ouais,
avec sa tête d'arabe,
j'en sais rien.
Ouais, c'était moins, il me semble. Ouais.
Genre les rap, c'était plus sur les, comment il s'appelle,
Harry Style,
Harry et Nial,
c'est ça.
Ouais,
Nial, c'est le.
Avec sa tête d'arabe, il était dans le boys band K, mais fracassé la tête de toute une génération, tu vois, et en plus, tu vois, le, comment dire, le boys band au sens jusque marketing du terme, tu vois, c'est des mecs qui ont marché avec leur musique et leur physique, tu vois, leur physique à lui tout seul, ils pouvaient vendre, tu vois. Et c'était peut-être la première incursion qui a créé le changement, où aujourd'hui, être brun, bronzé, avec une barbe très fournie, machin, c'est plus un problème.
On parle même pas de ce que Younes Benjima a...
C'est... Je cherchais son nom, je savais pas comment il s'appelle, parce que j'aurais bien peur de savoir comment il s'appelle. Mais j'ai... quand tu parlais, c'est mais venu direct, je me suis dit...
Mais c'est la mode.
Le nombre de fois où
toutes les Kardashians essaient de trouver leur
homme. Il est trop beau, trop beau, trop beau et tout, mais... Alors que, genre, on n'aurait jamais pensé à ça.
Et t'en connais 8 qui lui ressemblent.
Ça reste un arabe de Lyon, faut le rappeler.
C'est ça,
mais la vérité, la
douce de Benzema, frère.
Mais Benzema, gros. Benzema aussi, il a fait partie de ça quand il sortait avec Rihanna. Attendez,
sortez information
quand,
attends, à confirmer.
Quand il y a eu le Benzema Rihanna là.
Ça me fait penser ce que tu disais à un truc assez particulier, je trouve, avec les Arabes au sens large du terme, de Maghrébins jusqu'à Moyen-Orientaux, qui est que en fait, dans tout ce qui est représentation physique, hein, purement physique, pas les gens qui sont là pour autre chose, bah en fait. C'est les, entre guillemets, 2,5% et 2,5% de chaque côté de la courbe, tu vois, les physiques les moins représentés qu'on voit partout, en fait. Et les 95% restants, qui, en gros, ressemblent à l'image qu'on a d'un arabe, c'est ceux-là qu'on voit pas, tu vois.
Ouais.
Et c'est marrant parce que t'as pas ça avec les autres ethnies, par exemple les asiatiques. Enfin bon, c'est pas une ethnie. Mais si tu prends chaque... Par exemple, si tu prends je sais pas moi, les Vietnamiens, bah les Vietnamiens qu'on voit, ils ressemblent à des Vietnamiens, tu vois. On prend pas des Vietnamiens qui ressemblent seulement à des Coréens ou des Japonais, tu vois.
Ouais.
Tu vois, et c'est marrant, je trouve, ce un peu ce truc où en fait, on rentre petit à petit, mais par les portes des autres, entre guillemets.
Ouais, mais
tu vois,
par rapport à ce que tu évoques là...
Younes Benjima par exemple, c'est parfaitement le
contre-exemple. Exactement. Ouais, non, mais, voilà.
Mais j'en ai pas d'autres.
Les deux qu'on a cités, c'est des contre-exemples avant. Mais sur le point que tu dis, est-ce que les Japonais ou les Coréens, ils sont placés en référence par rapport aux Vietnamiens? Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, on prend pas de Vietnamiens, on voit pas de Vietnamiens qui ressemblent à des Coréens, c'est pas eux qui sont le plus représentés, mais est-ce que le Coréen, il se place en ref? C'est-à-dire que chez nous, dans l'exemple et dans la discussion qu'on a là, les modèles blancs sont la référence. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Amel qui répond. Pour le coup, c'est une vraie question que...
Par rapport à ça, en fait, avec les Coréens, du coup, dernièrement, avec la K-pop, mais ça a explosé, et maintenant, le canon de beauté en Asie, c'est les Coréens.
Okay. Ouais, oui,
partout.
Maintenant, oui.
Okay. Partout.
Ouais.
En Asie, en tout cas. Ouais. Genre, des Vietnamiens qui essaient de se repasser pour des Coréens et tout.
Ah, l'Asie
genre,
de l'Est, ça commence à se faire.
Hein?
L'Asie de l'Est, je pense.
Oui, plutôt, mais
je
genre...
Je pense qu'à l'Inde, ça s'arrête. Je sais
ouais,
pas.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais genre, en tout cas, vraiment, genre, tout ce qui est Asie de l'Est, Asie du Sud, genre... ce qu'ils voudraient, c'est être comme des stars de K-pop.
Ouais.
Enfin, c'est ce qui se voit dans leurs séries et tout. Je sais qu'en Thaïlande, c'est pareil. Genre, en Thaïlande, toutes leurs séries, les acteurs, c'est que des blancs, petites mèches et tout.
Ouais, parce que le modèle,
genre,
c'est
K-pop
devenu
et
le
tout.
Même.
Ouais, et même les Thaïlandais qui sont recrutés pour être des stars de K-pop, pareil, genre, il me semble qu'ils se font des injections pour blanchir. J'ai su ça il n'y a pas longtemps. C'est pas que du fond de teint, en fait. Ils font vraiment des...
Okay.
C'est des vrais trucs qu'ils font.
Choco
parce
Premium.
Que, genre, pour Blackpink, par exemple, Lisa, c'est une Thaïlandaise. Et toutes ses photos pré-début, elle était foncée de peau. Et d'un coup, elle débute. Elle est blanche, mais blanche, vraiment blanche. Hein.
Moi,
et je me disais, attends, visage. Je me dis, ouais, ok, il y a le fond de teint. Mais pourquoi tout son corps, il est blanc? Genre, je me dis, il y a un problème, tu vois.
Ouais.
Et en fait, c'est parce qu'ils se font des injections. Et du coup, ça se démocratise. Et du coup, aussi, bah...
Bon, bah, du coup, c'est pareil, en fait.
Style vestimentaire
en fait,
aussi, pareil. Genre...
C'est pareil.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, il faut que dans le soft power, t'aies une ethnie qui s'impose. Et qui
ouais,
se
en fait,
tu
rentres en t'en rapprochant et puis en imposant petit à petit tes particularités. Quoi.
D'ailleurs, petit aparté, en parlant de blanchissement, dans les Caraïbes et en Afrique subsaharienne, ouais, les produits pour blanchir la peau, c'est une épidémie. Ouais. C'est vraiment, il y a...
C'est, je sais pas si ça l'est encore, mais...
Si, ça l'est encore.
Ouais, c'est toxique. Ouais. C'est...
Et ça touche surtout les femmes.
Super cruel. Et c'est surtout les femmes, bien sûr.
Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose. Quand tu parles de soft power, en fait, je trouve qu'au Maghreb, on est vachement passé d'un soft power français, bah, du coup, dû à la... Bah, la colonisation, a un peu un soft power turc.
Oh, je te check, je suis trop content parce que ça m'a choqué très récemment, j'étais pas au courant.
C'est depuis pas hyper longtemps, en vrai, je pense 10 ans, 15 ans, mais ça s'est fait et ça a vraiment tout imprégné.
Ils parlent turc comme nous on parle anglais.
Exactement.
Hein? Les
gamins qui sont
turcs,
oui.
Non, mais
c'est. Cousines, elles peuvent grave te caler des longues phrases et tout en turc.
Sérieux?
Oui.
Et là, on peut se dire, bon, du coup, les modèles, les représentations vont changer. Parce que un Turc et un Français, c'est pas la même chose. Ouais. Du coup, ça va changer. Alors qu'au final, c'est exactement les mêmes problèmes de représentation. C'est toujours la blancheur, les blancs, les yeux bleus, les cheveux clairs qui sont vachement mis sur le devant de la scène, quoi. Et en fait, le soft power a changé, mais les modèles n'ont pas changé.
Je me demande, du coup, s'il y a eu, pour le par rapport au soft power que tu disais, je pense qu'il y a un truc qui a facilité le soft power turc, tu vois, un peu aujourd'hui. C'est aussi l'époque du panarabisme post-indépendance, etc. Où il y avait une volonté d'avoir un sorte de soft power entre gros guillemets local, enfin, arabe, quoi, en fait. Où il y a eu, par exemple, enfin, quand moi je parle avec, par exemple, que ce soit ma mère, ma grand-mère, tu vois. Elle, c'est l'Égypte. L'Égypte, le Liban,
ouais.
Mais
elles
connaissent
tout.
Ah, lui, un grand réalisateur égyptien, ouais. Machin, tu vois. Genre, c'était...
J'ai une photo de Abdel Halim dans ma cuisine. Un tableau à côté de mon père. À côté d'une photo de mon père.
Non, mais voilà, tu vois, genre, c'est un délire comment il y a eu cette époque, tu vois, un peu... où c'était un peu le... Je sais pas, mais en fait, moi, quand tu m'en parles, j'ai l'impression que c'était un sorte de rêve éveillé, tu vois.
Ouais. Où c'était un peu... l'âge d'or du monde arabe, quoi.
Mais en fait, même pas un âge d'or, mais une volonté...
de regarder droit chez nous.
Bah, ouais, de se regarder entre eux. Parce qu'au final, le panarabisme, dans les faits politiques, voilà, ça a échoué.
C'est l'Égypte qui a tenu tout le mouvement du panarabisme.
C'est ça, donc, ça aussi, tu vois. Donc, mais sur le côté culturel... enfin moi je suis pas du tout un panarabiste et défenseur de tout ça, tu vois, enfin franchement je suis pas super renseigné sur tout ça, mais sur le point de vue culturel je trouve que j'ai l'impression que c'était une bonne chose, je sais pas, hein, c'est peut-être naïf et c'est peut-être de la nostalgie via
un truc qu'on a pas vu,
via exactement, ouais. Via ce qu'on nous raconte, et on nous raconte le meilleur aussi, tu vois. Mais ouais, où c'était
cette
plus...
époque elle est hyper romantisée,
ouais.
L'époque des années 60 en
ouais.
Égypte c'était
ouais, c'est
alors
ça.
Qu'au final
et du coup quand il y avait ça, il y avait bah, comme l'a dit Amel, tu vois, genre les Libanais ils sont très blancs, enfin tu vois, et du coup ça a facilité un peu le truc, et j'ai l'impression que le soft power turc c'est un peu une sorte de
d'écho
ouais, un peu,
d'entre
ouais.
Deux entre le blanc et le
ouais, ça et plus un peu aussi genre une sorte de semi-nostalgie de ah vas-y, enfin
quand on regardait chez nous,
ouais voilà, tu vois.
Moi
ouais,
je pense vraiment que c'est beaucoup plus complexe que ça, déjà.
Bien sûr.
Déjà, enfin en fait quand il réfléchit, les Turcs pour des Turcs pourraient avoir exactement la même discussion. C'est-à-dire que eux-mêmes, au sein de leur propre truc, les séries turques et le soft power turc qu'on nous vend, c'est le même soft power turc qu'on vend aux Turcs eux-mêmes. Ouais. Tous les Turcs ne ressemblent en aucun ouais. Cas aux gens ouais. Des séries
mais
turques.
C'est comme en Inde, par exemple.
C'est exactement la même
chose.
C'est exactement
ce
que je disais. Ouais, c'est ça. C'est qu'en ouais. Fait, on est en train de grailler la culture qui fait kiffer un pays que nous, enfin, genre,
ouais,
nous, on
oui,
est
oui,
encore
oui.
Dans
un truc. typiquement, enfin, la Turquie a un versant sur la Méditerranée, et si je me trompe pas, c'est celui qu'on essaye de mettre en valeur, mais la quasi-totalité du pays, c'est les terres, et c'est des montagnes, c'est genre rien du tout, enfin, c'est pas du tout Istanbul et tout ce qu'on essaie de nous faire rêver, quoi. Enfin,
ouais,
et
c'est autre
et
chose.
Moi j'adore ce côté-là, mais c'est pas du tout la même
mais
chose.
Mais puis même, je sais pas si certains sont déjà allés en Turquie, à Istanbul, par exemple. Ah, tu vois pas des gens des séries. Il y a des grosses moustaches. Tu vois, genre c'est comme nous.
C'est un peu le même problème qu'au Japon, où tu sais, genre parce que tu grandis dans une culture genre en mode qui, enfin dans le truc genre soft power japonais, t'as l'impression que si tu vas déménager à Tokyo demain, ça va se passer comme dans un manga.
C'est ça.
Tu vois,
ouais.
Alors qu'il y a des réalités qui sont tout autres, il y a des problématiques qui sont tout autres.
En fait, on est dans la matrice qui se sont créées.
Je sais pas si tu vois, il y a un mème. Ou genre il y a un endroit où ouais, c'est écrit
place
et la personne place s'en fout et après c'est écrit place in Japan ouais, avec le même endroit ouais. Et la personne est hyper excitée ouais. Et c'est vraiment ça, genre c'est exactement le même problème.
Ça me fait rire entre guillemets parce que juste avant de commencer l'épisode on a dit ouais on va surtout parler des filles parce que c'est vous que ça concerne. Là ça fait genre une demi-heure qu'on est en train de parler des mecs. Comment s'appelle tu m'as dit?
Younes Benjima.
Et en fait, pour revenir au côté France, on va dire, enfin, chez nous, quoi, entre guillemets, bon, bref, en France, je me sais, bref, et c'est vrai que depuis, je sais pas, 5 ans à peu près, le standard de beauté homme, et je sais que vous en avez parlé dans un épisode précédemment, c'est le rebeu, cheveux bouclés, et accessoirement le mieux qu'ils viennent de citer. Ah, on revient à ce que tu disais avec le jogging et enfin perso moi ça m'a déjà sorti une fois tu sais alors que pourtant j'ai pas trop une tête d'arabe de c'est le Rajel et tout tu vois et genre j'étais en mode mais j'ai halluciné, je me suis dit mais comment
question raconte
ouais, j'étais là qu'est-ce que tu racontes rentre chez toi genre j'étais là, mais c'est enfin
C'était Sid, toi t'avais.
Mais vous l'avez sorti ça, je
ouais,
suis
sûr.
Je crois que c'était dans l'épisode entre garçons. Ouais. Non, ou l'amour. L'amour
non, c'était entre Rajel. Ça, c'était l'épisode okay, entre Rajel.
La meuf qui t'avait dit viens au jogging.
Ouais. ouais.
C'est une anecdote ça.
Ouais. Moi, je suis le mec qui se mouille dans les épisodes. Je raconte des anecdotes de tarté. Bref.
Moi, j'allais parler des meufs et j'allais poser une vraie question que je me pose de plus en plus. Parce que en vrai, je vais revenir sur les Kardashians déjà parce que j'adore cette famille et que je trouve que c'est le truc le plus intéressant à analyser d'un point de vue sociologique. Kim Kardashian, elle est arrivée à un moment où elle n'était pas du tout la norme et elle a réussi à tout changer. En faisant en sorte que non mais
ah non mais de toute façon moi je n'ignore pas leur changement et leur impact
avec tous les problèmes d'appropriation culturelle et de machin et de trucs, il y a un truc que on peut pas enlever, c'est le fait que elles ont bousculé tous les codes. Tous les codes et elles ont tout changé, ouais. Tu vois.
Non mais ça c'est sûr.
Et que
ça c'est un fait.
Et mais que aujourd'hui gros, toutes les rebeux cherchent à ressembler le plus possible à Kylie Jenner parce que en fait c'est ce qui est, on revient à ce que tu disais de ce qui est atteignable. Kim Kardashian c'est atteignable pour une arabe, tu vois. Et moi il y a un truc que je me demandais grave, c'était est-ce que c'est Kim Kardashian qui a copié les arabes ou est-ce que c'est les arabes qui copient Kim Kardashian.
Franchement je pense pas que Chouka elle sait qu'il y a des maghrébins qui avec la même tête qu'elle un peu près
mais
et tout.
Quand tu vois le dernier shoot de Kylie Jenner où elle est sapée comme une libanaise, elle ressemble à une libanaise.
Maintenant ouais mais ouais. À la base je pense pas.
Mais je pense que ça vient plus des premières inspirations ouais. aux filles Kardashian c'est les noirs en fait ouais. Genre toute la culture noire et en fait quand elles prennent ça bah ça donne un truc un peu chelou de un peu une rebeu un peu tu vois et genre c'est pour ça que c'est devenu ce modèle là mais tout elle pompe tout à la culture noire en fait.
Non mais même un truc plus précis en fait c'est qu'elle pompe ce qui encore on revient à ce qui est atteignable, c'est-à-dire qu'est-ce qui était atteignable chez les Renois, c'est le physique métisse. Et ouais. C'est exactement le truc de Iman Amam, c'est le physique qui en gros tu peux être soit métisse Renois, soit rebeu, soit enfin en fait, c'est le physique qui rentre limite dans le plus de je pense d'ethnies hein à part en Asie, tu vois. Et même
non mais regarde
c'est côté un peu light
ouais, tu vois ouais, mais voilà un peu le
même en France, excuse-moi sans ça je suis pas obligé de le mettre mais en France il y a quelques années enfin c'était la mode entre guillemets que des blanches se mettent avec des renois pour avoir des enfants métis
oui,
mais tu sais là le genre le rêve du bébé métis mignon et tout mais enfin tu vois c'est
non je vais même dire plus récemment ça a step up et il y a eu des générations enfants de cette génération où les light skin étaient les beaux gosses, tu vois, genre...
Ouais, même le fantasme des meufs curly, enfin des tissemakers curly.
Oui,
mais c'était... Mais il y avait une fétichisation des métis à ce moment-là, c'était hardcore.
C'était l'époque de curly, c'était...
C'était hardcore de ouf, et c'est triste parce que en vrai, c'est parce que c'est des... noirs qui sont pas trop noirs. Ouais. Et enfin, tu sais, c'est tout le problème d'aujourd'hui, light skin, dark skin, où tu sais, t'as toujours la light skin qui est au-dessus. Enfin, il y a plein d'activistes dark skin qui ont grave parlé de ça et tout. Et c'est vrai qu'il y a un vrai truc où genre tout est toujours plus. Pourquoi tu rigoles?
Parce que c'est la représentation sur le physique de. Non, toi, t'es un arabe, mais ça va. Tu
ouais,
vois,
c'est ça,
mais c'est l'application physique de cette phrase-là.
C'est l'entre-deux qui passe.
Ça va.
Ouais, ça va.
Ouais,
ouais, ouais.
C'est vraiment ça. Je voulais grave revenir aussi plus sur le côté, du coup, plus mode et représentation et de ce que nous, on consomme aussi, parce qu'on parle beaucoup des standards de beauté, mais les séries turques et le Liban, c'est beaucoup à la maison, c'est pas trop ce que moi, je consomme, tu vois, en soi. Et il y a un truc qui est grave intéressant, déjà, c'est l'apparition de tout d'un coup. Bah, déjà, tout d'un coup, il y a eu plein de mannequins noirs. Après, il y a eu plein de mannequins asiates. Et puis, depuis 2-3 ans, il y a plein de mannequins arabes qui apparaissent. Et tu sais, il y a un truc très bizarre où... Enfin, je vais prendre l'exemple de Jacquemus qui avait fait son défilé Le Souk avec un photoshoot incroyable au Maroc où, dans tout le défilé, il n'y avait pas une seule mannequin maghrébine. Et donc, il y a plein de gens qui ont crié en disant « Comment ça se fait que tu fais une collection sur Le Souk ?» Et ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce défilé, il y a toujours eu des mannequins maghrébines ou arabes sur les podiums de Jacquemus. Toujours. Il y en a toujours au moins une ou... Tu vois, genre, il y a toujours un petit peu de représentation. Et on en voit un peu partout et tout. Et moi, ce que je me demande, et il y a un truc aussi, ce serait cool qu'on peut-être pour terminer l'épisode, on a plein de représentations maintenant. On a plein de représentations dans plein de domaines différents. On commence petit à petit à avoir des représentations. C'est très récent. Il y a 2-3 ans, on n'en avait pas. Ou alors, on n'en avait que des biaisés ou des clichés. Ou des... Et ce que je me dis, c'est que c'est quoi les limites de cette représentation? Maintenant qu'il y a 2-3 mannequins arabes dans une campagne, qu'est-ce qui a vraiment changé?
Bah, chef, moi, c'est le problème de l'univers de la mode ou des mannequins et tout. C'est que c'est pas le truc le plus présent. C'est-à-dire que... Comment dire? Un acteur, il apportera plus de représentation parce que tu vois sa tête dans des films, tu vois. C'est personnifié, c'est plus humain et que les films sont plus vus que les défilés. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, mais les pubs, gros.
Ah, mais même. Ouais, t'as plus le nom de l'acteur d'un film que de l'acteur d'une pub.
Et puis même moi, je trouve que la représentation dans la mode, ça a une limite...
parce que ça reste de la mode.
Exactement.
ça reste super
physique,
beau.
Ça reste en gros, genre tu vas pas admirer la personne pour son physique. Enfin, tu vas admirer son physique mais tu vas pas dire enfin moi tu vois, je suis pas du tout de ce type là, tu vois, je vais pas dire waouh, je veux être lui parce qu'il est
parce
beau.
Parce qu'il est beau. Ouais.
Non, je m'en fous, tu vois, il a fait un truc stylé, je veux être lui, tu vois, OK.
Bah en fait le souci c'est que la mode, j'ai l'impression, c'est on prend les physiques atypiques. Donc forcément ça va pas représenter, enfin je trouve que ça ne représente pas forcément ce qu'on est en vérité, parce que enfin moi j'ai un pote à moi, il est polonais, il fait 1m90, il est archi stock et tout, tatoué de partout, et il fait de la mode mais parce que il a un physique particulier, tu vois, voilà, il est bizarre entre guillemets, mais un polonais comment on va dire, bah il va pas
PLK,
est-ce qu'un polonais va s'identifier à lui? Je pense pas.
PLK, il y a beaucoup de meufs qui le trouvent hyper frais. Ouais. Mais il ressemble pas au pote polonais qui fait de la mode, et c'est pas PLK qui fait de la mode.
Ouais. Mais moi en fait je parle de la mode principalement parce que la mode c'est ce qui donne la tendance, tu vois, en vrai. Et ce qui suit, c'est tous les autres domaines suivent, tu vois.
Ouais.
Et du coup il y a ce truc où aujourd'hui, tu vois, on voit des mannequins arabes et du coup on voit aussi plein de gens arabes. Younes Benjima c'est un mannequin, hein, donc ça reste dans cette lignée là, tu vois. Mais quelles en sont les limites, dans le sens où est-ce que c'est devenu la mode d'être arabe, tu vois? Et du coup c'est juste un problème parce que ouais, ou est-ce que je c'est juste devenu la mode d'avoir les codes, hein?
Moi je pense c'est plus d'avoir en fait je pense que maintenant la mode c'est plus d'avoir des features, je sais pas comment des caractéristiques.
Un truc
t'as des grosses lèvres, ah t'as des machins, et ah t'as un petit défaut, hop, c'est bon, t'es waouh, tu vois. Mais même d'ailleurs je voulais apporter aussi un petit truc, comme le disait Blaise, c'est que déjà de un, il y a effectivement, on recherche les physiques atypiques, d'où le fait d'ailleurs le truc que je disais, qui sont les exceptions en fait qui ressortent
et pas celui qui ressemble au commun, en fait, au commun de son ethnie. Et après, t'as aussi, je pense, aussi un autre truc qui est culturel, où t'as certaines ethnies, enfin, certaines cultures plutôt, où c'est plus bien vu ou mal vu, tu vois, d'être dans la mode, tu vois. Je pense que chez nous, c'est pas non plus un truc où on pousse tellement. Ouais. Et je pense pas non plus que. Enfin, je pense que ça a joué aussi dans le fait qu'on soit représenté plus tard. Après, t'as raison, chacun son avis, tu vois, mais ça joue clairement, tu vois.
T'en connais beaucoup des beaux gosses marketing rebeux.
Comment il s'appelle le gars là qui est dans tous les films là?
Pour aller dans le sens de ce que tu veux.
Il est dans tous les films d'ado en ce moment là. Ryan, je sais pas quoi.
Ben City.
Ouais.
Non, lui, ça fait quelques temps. Mais alors, lui, c'est pas le mec qui a le plus mis en avant son côté rebeu, ce que je veux dire.
Mais justement, donne un exemple sens, de quelqu'un qui n'est pas forcément rebeu.
Un Justin Bieber, tu vois.
Ah.
Justin Bieber, c'est un artiste, mais avec sa beauté, ça fait partie de son personnage. Okay, tu vois ce que je veux dire. Je connais pas de mec chez nous qui a eu cette. Ce chemin-là, il n'y a aucun des rappeurs français d'origine maghrébine qui arrivent et qui mettent en avant leur physique dans le... Mais gros, ça s'est fait tout seul.
Ça s'est fait, pareil pour moi.
Ça s'est fait tout seul. La preuve en est que, avec leur dégaine chevelisse et tout, mais ils étaient pas dans les codes, tu vois. C'est les gens qui ont kiffé.
Ils ont mis les codes.
C'est ça, et ils ont mis le code.
Ouais. Bah, donc... Alors, c'est quoi ta question? J'ai pas compris.
Mais c'est pour répondre à ce qu'il disait, genre
c'est
en mode.
C'est un peu, non? Genre ce truc de marketing du rebeu, tu vois.
Peut-être, ouais.
Ouais, c'est moi.
Peut-être, voilà. Et c'est le seul exemple que
j'ai dans ce style. Moi, je trouve pas ça dérangeant.
Alors là, moi pas du tout.
On est d'accord. Ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que moi, je préfère qu'on parle pas de mon. Enfin,
ouais.
Tu vois, parce qu'en fait, après, ce que. En fait, moi, je vois le truc direct qui vient après, c'est ok, on voit que ton physique,
fétichisme physique.
Tu es un arabe, tu es une feuille, en fait.
Passé,
Bah, c'est ce qu'il y a avec les meufs arabes, d'ailleurs, un peu, je trouve, tu vois. Ouais. En gros, bah, t'as ce physique-là, je m'en fous de ce qu'il y a derrière, de qui tu es, de machin. Je veux juste t'avoir, entre guillemets, dans mon tableau de chasse et.
De fou.
Lydia, tu voulais dire
un truc? Ouais, je voulais dire un truc, mais du coup, c'était plus en rapport avec ce qu'on disait avant. Mais en gros, je trouve que, voilà, certes, il commence à avoir des rebeux dans le cinéma, dans la mode, etc. Et ça, c'est un bon début, tu vois, pour plus de représentation. Mais il y a un domaine où vraiment, il n'y en a pas du tout, c'est dans le journalisme et dans les médias. Et ça, pour moi, c'est certes des choses qu'on ne voit pas, mais c'est un peu...
Plus important.
C'est plus important, en fait.
Bah, c'est l'œil, en fait. C'est l'œil qui montrait les choses que vous ressentez.
En fait, à partir de ce moment-là, quand il y aura plus de maghrébins, de maghrébines, de rebeux dans les médias, que ce soit à la télé, à la radio ou dans la presse écrite, je pense que là, on aura beaucoup plus de représentation et pas pour le côté marketing, quoi. Plus.
Ceux auxquels je pense, moi, et que j'aime bien, c'est le Bondy Blog. Mmh. Et je trouve que justement, c'est un peu un.
Oui, mais ça reste un. Ça reste... C'est grave.
Oui, c'est un petit.
Et le problème,
c'est que
tous les Arabes qui sont journalistes ne parlent que de problématiques d'Arabes.
Bah, moi, mon père, il travaille à l'AFP, mais. Dans le côté écrit, dans la rédaction, c'est t'en as pas. En fait, dans tout ce qui est photo, tout ça, mon père il travaille côté photo, il dit c'est rempli de ça. Non, mais je veux dire, il y en a plein. Dans la presse écrite, c'est vraiment le côté élitiste.
Ouais, quand tu dois donner ton avis, celui qui donne son avis, quoi, en gros.
Et c'est même au-delà
de donner son avis, tu vois, genre la manière dont on va chercher les intervenants, la manière dont on va choisir, on va faire le portrait de cette personne. Évidemment, et en plus, bon, après, c'est un autre sujet d'entre-soi, etc. Mais à partir de ce moment-là, quand il y en aura plus dans ces milieux-là, je pense qu'on verra un vrai changement en France vers plus d'acceptation et plus de représentativité, quoi.
Moi, je vois un arabe à la tête de BFM TV et CNews.
Non, mais. Parce qu'au final, c'est nous qui faisons l'actu, tu vois.
Non, mais ouais.
Dis pas ça, Ziad, ils vont mettre Zemmour à la tête de. Là, c'est la patte de singe là qui. Hop, il y a un doigt qui se plie, là, que ton vœu est exaucé, mais à quel prix?
J'avais pas pensé.
Mais ouais, non, il y a ça, et même au-delà du journalisme, en fait, que ce soit partout pareil. Je vais revenir sur Jacquemus, mais je sais pas si vous vous souvenez de quand il y avait eu la photo du défilé versus la photo de l'équipe.
C'était pas la même colorimétrie.
Non, mais c'est ça, en fait. C'est un vrai problème.
Le problème, c'est dans la fabrication, en fait, des trucs, tu vois, c'est dans l'arrière-boutique, tu vois. C'est là que les choses se passent, en fait.
Et dans tous les domaines, et que aussi en termes de représentation, les Arabes et les Noirs, c'est pas que les figures de foire et le divertissement.
En fait, pour aller dans le sens et résumer ce qu'on dit, on a fait un pas dans la bonne direction, on est juste en train de dire qu'il ne faut pas s'arrêter là. Quoi.
Oui, c'est ça.
C'est qu'il ne faut pas s'arrêter là et que nos opposants ne se disent pas « Ouais, on a ouvert la porte, allez, vas-y, et rentrez. »
Moi, je dirais...
Bah, allez, ça y est, ouais. C'est bon, moi, c'est mis le mannequin en cours, voilà. Laissez-moi tranquille.
Ouais. Je trouve même qu'il y a même plus que pas s'arrêter là, il y a une sorte de risque de s'arrêter là.
Ouais,
parce que tu peux te complaire dans ça en « Ah, un film, je vois un arabe, ah, super, c'est cool. » Ok, cool, super, mais demain, est-ce qu'on te refuse un appart? Demain, est-ce que tu peux faire des études? Demain, est-ce que tu peux aller étudier avec
est-ce
ton voile?
Est-ce que tu peux le réaliser, ce film?
Ouais, est-ce que tu vois, enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont vraiment plus importantes et que moi je trouve. Et c'est pour ça que la représentation, je suis pas totalement fan parce que c'est un peu.
Un
cache-misère, un peu le truc de la carotte et de l'âne, ouais. Ah, allez, il y a une carotte et hop, ah bon, bah c'est qu'il y a à manger. Bah non, en fait, c'est juste la même carotte qu'on est en train de te faire, on te fait faire un rond, tu vois, avec. Donc, qu'il faut faire attention, en fait, à ça et rester et se dire, en fait, genre, déjà, même prendre du recul par rapport à ça, tu vois, parce qu'en vrai, la représentation, ça vient beaucoup aussi des États-Unis, tu vois, ça a commencé un peu là-bas, et faut pas oublier que là-bas, ils sont. Je sais pas les chiffres, mais les Noirs, ils sont plus de 25%. Mmh. En France, les Noirs et les Arabes, on représente pas 25%. Tu vois, donc on peut pas non plus...
Ce qui est important, c'est prendre la place sans qu'on ait à nous la donner avant.
Voilà, c'est ça. C'est sans qu'on, en gros,
sans
on te mette là...
Par pitié, voilà. Par pitié, entre
guillemets. Ouais, voilà, le truc, comme tu disais, par rapport à Jacques Mus, tu vois, genre, allez, hop, je dissémine une arabe par défilé, et c'est bon, on va pas me faire chier dans les commentaires. Et c'est ce qui est le cas, hein. On le fait pas chier dans les commentaires. Mais je veux dire, enfin, moi, j'aimerais pas être cet arabe-là qui est pris pour ça, quoi, en fait. Ouais. J'aimerais pas être là, le gars qui est là pour le quota, et puis qui finalement, en fait... n'a même pas tant ouvert de porte, enfin pense à en avoir ouvert, mais ou j'en sais rien en fait, je suis pas dans leur tête, mais en tout cas n'a pas vraiment ouvert la porte malheureusement, tu vois.
C'est pour ça qu'il faut prendre d'assaut les institutions en fait.
On va faire une petite pause musicale, on va écouter un son que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Mac, d'un rappeur qui s'appelle Draganov, je sais pas du tout d'où est-ce qu'il vient, enfin je pense qu'il a un accent de marocain. Donc j'imagine qu'il est marocain. Il fait des feats avec Toto, donc à mon avis il doit être marocain. Et j'ai découvert grave récemment dans une playlist, je sais même plus comment. Et j'ai trop kiffé, donc on écoute Marek de Draganov sur la télé. Oh baby, Marek, les radins chauffent, Marek. Mahal Marek, tchaouch, kali kanou Marek, kala malouk tchouan et pkaouch. Oh baby, Marek. نشوفو معاك محال ما غيتش شو قالي كانوا معاك راه ما روحش ما يبقاش شو بابي معاك لي غادي نشوفو معاك محال ما غيتش شو قالي كانوا معاك راه ما روحش ما يبقاش ربينا من الديبار مسيرو ورك هارد مستري جيري بيكار بلا بيك شحال من كاشار بوتو تشوني سي شارب نحب ميلودي دارك سولو مع راسي مدار بلا فاتا عايشين حار ربينا من الديبار ما بغيش نديكالي قتلني غير شيطاني مشاكل جو لي صالي بشي ضحكو بيديكالي سولو غير كان ديباني بلدي يا سولو فاني عروقي كيشطحو البالي والوقت راه كاجري بحال راك فوكاري راه الدنيا خايبة ما غتخليكش تختاري عمي سما لبس امي لبس النيكاري غاتابع هادشي ناسي برا شنو طاري راه الوقت راه كاجري بحال راك فوكاري الدنيا خايبة ما غتخليكش تختاري عم اسمع لبس و نيو هبس و كاري راه تابعت شي وناسي برا شنو طاري مكبت كل يوم كل يوم كل يوم نحسب في نجوم في نجوم في نجوم كل يوم كل يوم كل يوم نحسب في نجوم في نجوم في نجوم واو
What's up, boss? Shoot, 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 shoot.
recommandation, alors je vais commencer comme d'habitude. Moi, ma recommandation, c'est un article qui a été publié en 2016 sur magazine Antidote et qui a été écrit par Marie-Caroline Bougère. Et donc, l'article s'appelle « Le mannequin arabe paria de la mode ». Et je crois que je l'avais lu à sa sortie et c'est grave un des articles qui m'a fait me poser, qui a fait en sorte que je me pose toutes ces questions quand je l'avais lu et qui a répondu aussi à beaucoup de mes questions. Et ça m'avait fait beaucoup de bien de le lire. Et du coup, donc, ça parle vraiment de comment les modèles noirs et asiatiques ont réussi à se faire une place et à s'imposer sur les podiums. Et ça explique un peu, ou au moins ça essaye de donner des pistes d'explication sur pourquoi il n'y a pas eu la même chose avec les mannequins arabes. L'article parle un peu de tout ça et je vous conseille vraiment d'aller voir, ça donne plein de pistes de réflexion intéressantes. Sid.
Alors j'ai deux recommandations. Je vais commencer par Extra Muscle Club, une page sur Instagram qui fait des shootings, qui fait du contenu beaucoup plus diversifié que ce qu'on a l'habitude de voir. Ils sont très ouverts et quand même très qualitatifs. Donc sur les personnes racisées, sur les gabarits, sur les styles, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour. Ils font du très bon contenu. Si vous avez envie de vous lancer même un peu dans tout le domaine, c'est un grand collectif. Donc il y a des bons contacts à se faire. Et je vous recommanderais d'aller sur le compte Instagram de Safia, qui était présente au dernier épisode. Elle fait des super IGTV en rapport avec ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Elle a évoqué pourquoi les femmes se rasaient dans l'histoire. Elle a évoqué le monde de la fast fashion. Elle a aussi évoqué l'impact des filtres sur les réseaux sociaux. Elle est dans des sujets très intéressants et vraiment proches de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc je vous recommande d'aller faire un tour.
Lydia.
Alors moi je vais vous parler du média Arabia Vox. C'est un petit média qui commence un peu à percer. Ils font des trucs super sympas, ils font des playlists avec des sons principalement arabes ou maghrébins. Ils mettent en avant des femmes de ces origines-là qui font des choses dans leur vie, des trucs cool. Ils parlent aussi un peu de ce qui s'est passé à l'époque, dans les années 60, avec Vintage Arabia Vox. Donc voilà, c'est cool. Et j'aimerais aussi parler d'un petit blog qui vient de se créer, qui s'appelle The Daybriefing. Là, c'est beaucoup plus de l'analyse personnelle d'une copine, en fait, à moi. Et voilà, on retrouve des sujets assez intéressants. Après, c'est plutôt de la vie personnelle et des trucs un peu plus introspectifs. Mais intéressant d'aller faire un tour. Elle a une personnalité assez cool, donc je vous recommande.
Amel.
Alors du coup moi un peu comme Lina, ça va être un article de Millworld qui s'appelle « Il est temps de décoloniser nos standards de beauté ». Et du coup pareil, ça parle du coup de décolonisation, du persian nose job, des cheveux lisses avec le lissage brésilien, etc. qu'on a pour la plupart fait, que j'ai fait, que je regrette. Et voilà, du coup, pareil, ça offre beaucoup de réflexions. C'est hyper intéressant et je le conseille. Ça parle aussi de mode, de berbère, de plein de choses. Donc, allez le lire et puis réfléchissez un peu.
Gamberge.
À méditer.
Théophile.
Alors ici, c'est le compte Instagram Alarte Project expose de l'art contemporain nord-africain et du Moyen-Orient. Alors il y a vraiment de tout, il y a du street art comme il y a de très beaux vêtements qui sont mis un peu comme des créateurs de mode, ainsi que le très fameux pop art maghrébin que l'on connaît. Je vous invite vraiment à découvrir, c'est très très sympa, beaucoup de variété dans les contenus qui sont proposés. Alarte Project, ça sera en description.
Ziad.
Alors moi j'ai pas une recommandation précise, je voulais juste évoquer une histoire qui est celle de comment elle s'appelle, de Halima Aiden, parce qu'on a parlé de beaucoup de mode par rapport donc aux maghrébins, etc. Et je pensais notamment par rapport du coup à la culture musulmane et à l'islam. Et c'est du coup pour ceux qui ne connaissent pas, une mannequin
entre gros guillemets comme on dit, hijabista, et qui en fait a arrêté récemment le mannequinat parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait pour rentrer dans cette industrie, elle avait lâché des choses de sa religion. Et voilà, c'est juste en fait une réflexion moi, que je trouve très intéressante aussi sur ça par rapport à ce qu'on disait, par rapport au fait que pour rentrer en fait dans des sortes d'industries un peu de software, il faut ressembler en fait à ce qui s'y trouve et à ce qui y domine. Et voilà, et en fait, plus généralement, en fait, je trouve que c'est un très bon conseil qu'elle a donné, qui est plus généralement de bien faire attention avant, quand on sait qu'on veut aller dans un domaine où on ne nous accepte pas, de bien se mettre d'accord avec soi-même, en fait, sur ce qu'on veut ne pas perdre. Parce qu'en fait, si on s'intègre totalement, si on se calque, en fait, sur ce qui s'y trouve, finalement, on n'a pas ouvert de porte, en fait. On s'est juste déguisé. Et voilà. C'était juste pour apporter cette petite histoire. Et ceux que ça intéresse, vous pouvez taper Halima Eden Story. Vous verrez toute sa réflexion qu'elle détaille beaucoup plus que moi.
La Tchei est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Sidox, Amel, Ziad, Théophile et Blaise. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver dans la barre de description et sur notre site www.latiaipodcast.com. Cet épisode de La Tchei a été enregistré dans les locaux de Yard. On les remercie pour leur accueil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou Deezer en tapant La Tchei, LAATAY, sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et sur Twitter, @latteipodcast. On se retrouve bientôt, Inch'Allah.